France Bleu RCFM. France
Bleu. Qui est là?
Hal.
Hal qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Toc Toc.
RCFM, 17h-18h.
Toc Toc.
Bonsoir à tous et bienvenue sur RCFM, 17h07, votre émission Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec des invités à foison ce soir pour parler d'une toute nouvelle manifestation par le cinéma, le premier festival Cinecim, le festival des films de montagne, Festival di Vigne Paesani en langue corse, a débuté samedi, ça se déroule jusqu'au 6 décembre à Francarde dans la salle de Promithée, avec un beau programme du cinéma corse, mais pas seulement, va largement dépasser les frontières de notre île, un très beau mélange des genres, mais bien entendu un dénominateur commun, la montagne, ses peuples, sa nature. Vous êtes sur RCFM, soyez les bienvenus. Et pour nous accompagner ce soir, Jean-Luc Juventin, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'association Ciné 2000, à l'origine de ce tout nouveau festival, on en parlera bien sûr dans quelques instants de toute cette création, de la jeunesse de cette nouvelle manifestation. Je suis également en compagnie de Joël Genin, bonsoir.
Bonsoir.
Réalisateur du documentaire La Corse des premiers alpinistes, 1863-1973, un sujet qui fait d'ailleurs l'objet d'une exposition que l'on peut voir durant toute la durée de ce festival. Et puis notre invité à Bastia, Léa et aux Empires, et bonsoir.
Bonsoir.
Bonazera Voy, vous impliquez beaucoup dans le festival, on va aussi détailler votre rôle et votre implication durant toute cette émission ce soir. Alors Jean-Luc Juventin, on vous connaît bien entendu en tant que président de l'association Ciné 2000, le festival Passion Cinéma à Ajaccio en deux volets, octobre, mars, le meilleur du cinéma avec des films sérieux, des films engagés, du cinéma corse, mais pas seulement. De l'exigence, beaucoup. Il y a du divertissement, il y a du documentaire, il y en a pour tous les goûts, du grand cinéma mondial primé aux petites productions. Pourquoi désormais se tourner vers un festival uniquement dédié au cinéma de montagne?
Alors, vous l'avez souligné, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, déjà à la montagne, puisque dans le cadre du festival, il y a en effet des soirées qui sont consacrées en mars et en octobre. Et c'est... des rencontres, une rencontre en l'occurrence avec Jean-Félix Aquavive et avec Léa, qui est sur le plateau. Bonsoir Léa aussi.
Salut.
Et donc c'était tout simplement d'essayer de revitaliser le centre de la région de Corse et de pouvoir aussi par rapport à l'expérience de Ciné 2000 sur la montagne, de pouvoir proposer un divertissement culturel, cinématographique, des rencontres dans un lieu qui est Francarde et en plus l'occurrence la salle Promithée. C'est une rencontre qu'on a eue il y a deux ans de ça, en 2017. On a réfléchi de notre côté, on a réfléchi aussi avec Léa, avec Monsieur Aquavive, avec la communauté des communes aussi, Monsieur Paridge, pour proposer une manifestation qui permettra ou qui allait permettre de pouvoir drainer non seulement des films, des rencontres, et tout naturellement en 2019, cette année, on a proposé une date qui a été arrêtée et de pouvoir justement mettre en place ce premier festival. La genèse, c'est vraiment en effet cette rencontre avec Léa et avec Monsieur Aquavive justement et Monsieur Paridge de la communauté des communes pour pouvoir justement proposer et décentraliser un festival sur la montagne.
Justement, Léa, sur cette rencontre, sur ce qui en est ressorti, sur ce projet qui vous a forcément emballé, qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Donc oui, c'est vrai que c'est j'ai juste servi de pivot pour faire rencontrer tous ces gens qui avaient des désirs chacun de leur côté, notamment une volonté politique de la part donc de Jean-Félix Aquavive, président du comité de Massif, de Paolo Zantu Paridge, président de la Comcom Pasquale Paoli, de d'investir le rural par des manifestations culturelles. Quand on m'en a parlé, moi j'ai tout de suite pensé justement à l'association Ciné 2000, il fallait trouver le pivot de professionnels en capacité de mettre une telle manifestation sur pied, ce qu'ils ont fait de manière magistrale. Il faut aller voir la salle Prométhée, qui est maintenant pour moi la Fenice du Centre Corse, avec ses draps, ses voilures comme ça, rouges. Non, c'est absolument magnifique, ça s'y prêtait, 300 mètres carrés. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est de mettre justement en relation les forces vives. Ça a matché. Et puis, de fil en aiguille, forcément, ça prend un petit peu de temps, parce qu'il faut... ça prend du temps. Tout prend du temps. Tout ça, c'est une question de temps. Et donc, en 2019, ça accouche d'un très beau festival au cœur de l'hiver. Ça, c'était très important. Aussi pour lutter un petit peu contre cette aigreur et ce fatalisme qui fait que nous dire l'hiver, il n'y a rien. Si, l'hiver, il y a des choses et de belles choses. Et en l'occurrence, au cœur de la Corse.
On va reparler justement de cet aspect de revitalisation de l'intérieur, bien entendu, mais sur ce cinéma de montagne en lui-même, est-ce qu'on peut parler de cinéma propre, dédié, lorsqu'il a fallu faire une programmation, comment est-ce que vous y êtes pris? Est-ce que ça a été un casse-tête, pardon? Est-ce que ça s'est imposé comme une évidence, justement, le choix de certains films, certaines œuvres qui vous ont frappé aussi, avec l'expérience justement des soirées montagne au festival Passion Cinéma?
Alors, comme l'a souligné Léa, c'est vrai que la salle, il a fallu l'équiper, ce qui a été fait, puisque il y a eu des investissements qui ont été faits, donc il a fallu rendre opaque la salle, donc ce qui a été fait il y a quelques jours. Et puis aussi de pouvoir proposer un cinéma et d'avoir du matériel technique de qualité. Donc là aussi, dans cette salle, il a fallu faire venir un technicien qui est un technicien de la société De Havi, qui est basé sur Paris, qui intervient dans le cadre du Festival de l'âme. Donc on l'a rencontré cet été. Il est venu, il a mesuré pour pouvoir justement emmener du matériel numérique, puisque justement la programmation qui a été faite, c'est du cinéma numérique. Donc ça veut dire que la salle, elle est équipée en format numérique, vidéoprojecteur, enceinte, etc. Donc tout ça, il a fallu le penser. Aller aussi vers les distributeurs, parce que quand vous êtes comme au Palais des Congrès, en ce qui nous concerne, on a du matériel, les films peuvent être téléchargés directement, peuvent être copiés sur les serveurs numériques. Et là, les distributeurs, on est confronté, puisqu'on est exploitant, dans le cadre du cinéma Ciné 2000, on est exploitant, et d'expliquer aux distributeurs de films que le film va être projeté dans une autre salle que celle qu'on a l'habitude, ça c'est une première chose. Et une deuxième chose aussi sur le côté financier, puisque les distributeurs, ils se rémunèrent en fait sur la billetterie, et de leur expliquer que, étant donné qu'on est affilié au Centre National de la Cinématographie, la billetterie ne sera pas CNC. Donc déjà, ça leur pose un problème, c'est-à-dire qu'il va falloir discuter avec le distributeur pour avoir des films qui seront distribués sans passer par le CNC. Enfin, c'est technique, mais c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que le choix des films aussi, malheureusement, on n'a pas pu avoir tous les films qu'on aurait pu souhaiter, parce que justement, les distributeurs n'ont pas forcément... Alors certains ont joué le jeu, et d'autres n'ont pas forcément voulu que ce type de programmation soit décentralisé sur Francard. Donc il y avait... une expérience matérielle, technique qu'il a fallu mettre en place, le côté distributeur aussi de films pour pouvoir obtenir des films. Il n'empêche que on a réussi, et force est de constater que le travail de Jean-Paul de Rocazer, qui est responsable de la programmation et bénévole de l'association, a payé, puisque elle a œuvré justement pour obtenir un choix de films assez éclectique. Voilà.
26 films, dont deux avant-premières. On va parler non pas des avant-premières, mais de l'un des films que l'on va pouvoir visionner. Ce sera ce mercredi 4 décembre à 14h, Jeune Bergère. On va en écouter la bande-annonce tout de suite.
Mes parents à moi n'étaient pas fermiers. Et personne m'a légué de ferme ou de prairie ou de troupeau. J'ai dû emprunter de l'argent au début pour acheter tout moi-même. Je me rappelle du métro que je prenais tous les matins et du bureau gris dans lequel je bossais. Et j'ai pas du tout envie de retourner dans mon ancienne vie. Scott, il est là ? C'est un métier qui est différent à chaque saison. Et chaque journée est différente. Oh non ! J'ai pas de chef ou de directeur pour me dire quoi faire. C'est moi qui prends mes décisions. Je suis complètement indépendante. Clairement, c'est de la malveillance dirigée contre moi, à mon avis. C'était vraiment pas une bonne année. Hein.
Pas sur le chiffre d'affaires, quoi.
Ça devient presque un bras de fer que j'ai pas du tout envie de laisser tomber. C'est comme si c'était l'autorisation qu'on peut pourrir la vie à des jeunes juste parce qu'on estime qu'ils n'ont pas le profil pour être agriculteurs. J'ai tellement gagné en liberté que les petits inconforts matériels, ça me paraît beaucoup moins grave.
Quel est le nom de votre profession ?
Bergère, ça me va bien comme nom pour ma profession.
Fort. Très fort, Jeune Bergère, film de Delphine Détry, film français sur donc Stéphanie, cette jeune mère célibataire parisienne d'origine qui a tout quitté pour réaliser son rêve et vivre donc au plus près de la nature. Installée en Normandie au cœur des prés salés du Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. C'est des choses qui nous parlent aujourd'hui lorsqu'on voit aussi le monde actuel, des personnes parfois en perte de repère qui sont confrontées aussi à une vie difficile, dans le gris, l'urbanisation galopante, ce retour à la terre aujourd'hui en 2019, et en parler, c'était quelque chose aussi qui vous tenait à cœur.
Oui, le pastoralisme, c'est quelque chose en effet qui est important dans le cadre justement de l'association. Je me souviens, les années 2000, on avait démarré en effet et on avait rencontré Joël Genin. On lui avait expliqué qu'on voulait faire un festival de montagne à Ajaccio et il avait répondu présent, il nous avait écoutés, il avait d'ailleurs lui-même l'expérience justement de berger. Il avait des contacts aussi, il nous a mis justement en relation avec des bergers, et c'était important en effet dans le cadre de ce festival-là de pouvoir justement sortir des films d'auteurs, mais aussi de pouvoir montrer une réalité du terrain, en l'occurrence cette jeune bergère.
On va reparler, bien entendu, toujours de cette problématique autour du rural, mais je voudrais évoquer désormais avec vous, Joël Genin, cette exposition, ce documentaire. Tout d'abord, la Corse des premiers alpinistes, 1863-1973. Ça commence si tôt, déjà, les traces de l'alpinisme en Corse, dès la fin du 19e.
Ben, ça commence même un peu plus tôt. Bon, à un moment, il faut choisir une date de départ, donc avec Gregorovius, qui était un érudit historien allemand, mais qui pratiquait aussi de l'alpinisme. Et il faut que je dise que j'ai pas fait ça tout seul, mais avec Jentra Dubacek, qui est tyrolienne. Et donc, comme il y a beaucoup de textes et de sources germanophones, y compris écrites en gothique, évidemment, on a fait ce travail à deux, que ce soit le film, l'exposition et bientôt le livre.
Qu'est-ce qui ressort finalement de tout ça? Il y a des gens qui viennent forcément de l'extérieur. Est-ce que justement ils paysannent? Les gens des villages ne regardaient pas ces gens-là avec de grands yeux en arrivant avec leur matériel, leurs envies aussi de découvrir la montagne. Comment les choses étaient aussi reçues par la population à l'époque? Est-ce que vous avez pu sonder ça?
Ben, c'est vrai que c'est la confrontation de deux mondes, parce que les premiers alpinistes qui sont venus un peu en nombre, il y a eu plusieurs périodes, mais c'est d'abord les Anglais, bon, 1860 jusqu'à la fin du 19e. Et donc, c'était des membres de l'Alpine Club, donc c'est le premier club alpin européen qui a été créé. Et donc, c'était des membres très sélects, hein. C'était des gens qui étaient nobles, des gens qui avaient des clergymen, des gens qui avaient l'habitude d'être servis, et qui partait quand même à l'aventure en Corse. Évidemment, c'est la rencontre de deux mondes totalement différents. L'intérieur de la Corse, donc principalement le Niaule, puisque c'est là où sont toutes les plus hautes montagnes. Et donc, il faut imaginer la Corse rurale, pastorale, qui voit débarquer des gens qui viennent là pour le plaisir de gravir les montagnes, alors que ils stradent tous les jours derrière leurs chèvres ou pour arracher leur subsistance à la terre. Donc c'est une confrontation intéressante. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces alpinistes qui sont venus, c'était des gens évidemment cultivés, avec un niveau de vie aisé. Et donc, c'est aussi tout ce qu'ils écrivent sur la société corse de l'époque, parce que pour voyager en Corse, pour aller dans les montagnes, il n'y avait rien d'organisé, donc il fallait arriver dans un village, trouver des gens Dans les Alpes, on avait l'habitude d'avoir des porteurs, mais en Corse, personne, il n'y avait pas de porteurs. Il y avait des muletiers, il y avait des bergers, mais il n'y avait pas de porteurs. Donc c'est le premier choc pour les gens qui débarquent.
Avec aussi finalement une belle collaboration entre ces alpinistes et puis bergers, muletiers qui vont aider justement ces gens-là. Il n'y avait pas d'infrastructure à l'époque pour pratiquer la montagne, des cartes pas très précises. Et finalement, ils vont être de très bons relais sur place, ces gens du cru.
Ben oui, ils sont même non seulement relais, mais indispensables. Parce que, par exemple, Félix von Kub, l'Allemand, qui est un personnage un peu connu, qui est un peu le pionnier des montagnes corses, il est venu en première fois en 1899. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il débarque où? À Francard, puisque il y avait la voie ferrée qui avait enfin vu le jour, qui fonctionnait. Et il débarque et il fait un récit assez étonnant, c'est qu'il débarque du train. Ils sont trois, ils ont 250 kilos de matériel. Donc c'est pas le petit sac à dos. Et puis on prend la route du Niol. Donc il faut trouver un moyen de transport. Et il raconte qu'il voit devant la gare une carriole brinque-ballante où il y avait à peine un plancher, et tiré par une mule et un âne, enfin, donc c'est l'aventure commençait là à la gare de Francard.
Et donc ce documentaire La Corse des premiers alpinistes 1863-1973 et cette expo donc que l'on peut visionner tout au long du festival avec photos, dessins, peintures, objets également qui témoignent donc de l'histoire de l'alpinisme en Corse sur la récolte de ces objets, comment les choses sont-elles faites? Est-ce qu'il y a eu des dons qui ont été réalisés? Comment
c'est les choses qu'on a trouvées principalement en Autriche, parce que donc c'est un pays de montagne, de grande tradition montagnarde, puisqu'en Corse, finalement, bon, moi j'étais au lycée à Corté dans les années 70, il n'y a pas beaucoup de gens en Corse qui faisaient de la montagne à ce moment-là. Donc, pas comme aujourd'hui où il y a des guides de montagne, des accompagnateurs, mais donc Tyrol où il y a une tradition montagnarde très forte. Et donc la première exposition qu'on avait fait justement, c'était avec Ciné 2000 à Ajaccio. On a le musée du club alpin d'Innsbruck qui nous avait prêté des piolets, du matériel. Par exemple, tout le fond de photos de Félix von Kub, il est au musée du club alpin de Munich en Allemagne. Donc on a tout ce maillage, tout ce relais d'informations et de gens qui nous ont aidés. Parce que bon, le monde germanophone, Autriche, Allemagne, il y a quand même, nous on appelait ça la passion corsica avec un K. Donc il y a un intérêt fort, pas seulement pour les plages, mais pour les montagnes.
Et d'ailleurs, ça se voit toujours aussi aujourd'hui avec les touristes venus d'Allemagne qui d'ailleurs sont plus souvent davantage friands des sommets de notre île que des plaines. Léa et Ouzampier, on reparle aussi un peu de la philosophie de ce festival et aussi de ce lien avec Passion Cinéma, Ciné 2000, ce lien entre culture, développement économique et social avec ce festival Cinéchim, on est en plein dedans.
Ah oui, c'est sûr que ce sont les thématiques principales et en priorité, c'est en effet d'amener. Alors tout est un peu culturel dans nos sociétés, tout est culturel. La culture, bon, mettons culture plutôt, apporter un peu de culture dans des lieux qui semblent un peu isolés, faussement isolés en plus, hein, parce qu'on le voit, Alexandra Jung de Rocazer a mis en place toute la partie réception des scolaires avec la participation des chemins de fer de Corse, et on voit qu'il y a eu énormément de scolaires qui ont répondu présent jusqu'à obligés de refuser certaines écoles puisque les trains étaient pleins. Donc Francard est une bonne destination puisqu'en effet elle est très accessible avec ses une heure hein, de Bastien, une heure en train, donc c'est tout à fait accessible. C'est limitrophe, c'est rural et donc il y a un fort potentiel à développer. Et puis surtout on voit que dès que l'on apporte cette culture, ces manifestations, les gens répondent tout de suite présents. Jeanne-Paul de Rocazer me dira hier, mais il y a des gens de Francard qui veulent s'investir pour l'année prochaine. Et là, je trouve que c'est déjà, au-delà du domaine économique, c'est déjà gagné dans le pari fixé.
On parle de la montagne, bien entendu, mais dans la montagne, il y a aussi les cours d'eau, les fleuves, les lacs, ce rapport à l'eau. Et ça me fait penser justement à cette avant-première qui a lieu d'ailleurs aujourd'hui. C'était le cas ce matin à 9h30, ce sera encore le cas à 19h avec Aquarelle à l'Odyssée de l'eau. Sélection officielle quand même de la Mostra de Venise 2019, c'est pas rien. Là on voit l'eau dans tous ses états, finalement les éléments aussi qui se déchaînent. L'homme qui est pris justement dans tout ça, et ça nous interpelle aussi sur une problématique extrêmement contemporaine, celle toujours plus prégnante du dérèglement climatique.
Oui, on est toujours dans cette logique de montrer non seulement donc des films de montagne, du pastoralisme, comme le précisait Léa aussi, des films pour les scolaires, que ce soit des maternelles, des primaires, donc collège et lycée. D'ailleurs, je voulais vraiment souligner l'investissement des bénévoles de l'association qui n'ont pas hésité une seule seconde à se déplacer sur Francard pendant la semaine. Je pense notamment à Alexandra qui a fait, comme le souligner Léa, un gros travail auprès des établissements scolaires, et je remercie d'ailleurs la quasi-totalité des établissements scolaires qui eux aussi ont joué le jeu. Remercier aussi les chemins de Fer Corse, parce que c'est vrai que c'était aussi un moyen, on parlait d'eau, d'environnement, d'éviter aussi d'utiliser trop les transports, les bus et les cars. C'était justement aussi d'utiliser le transport ferroviaire pour pouvoir justement emmener à Francard, comme Joël le soulignait tout à l'heure, d'utiliser la gare et ces gares pour déplacer les enfants. Et tout naturellement aussi l'environnement, donc ce film Aquarelle que les gens pourront découvrir, les scolaires mais aussi tout le public, c'est en effet le cœur de ce qui nous arrive aujourd'hui entre les problèmes climatiques. Il n'y a qu'à voir il y a quelques heures de ça, Monaco et Nice qui étaient de nouveau sous la pluie avec des cours d'eau ruisselants. Donc oui, c'est important aussi de pouvoir non seulement montrer le monde à travers la montagne, mais aussi de pouvoir montrer toute la partie écologique et environnementale.
Il y a une autre avant-première aussi, Nanga Parbat, la montagne tueuse. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors là, on est vraiment dans la montagne expéditive et expédition. On se souvient, il y a quelques mois de ça, d'Elisabeth Revol, qui avait, avec son acolyte Gravi, tenté l'ascension du Nanga Parbat. Un sommet qui a en effet la montagne tueuse, donc il y a quand même un nom qui est quand même significatif au niveau montagne. C'est pas une montagne facile, une montagne qui a été gravie d'ailleurs par les Allemands.
Hermann Bull, enfin, il était plutôt autrichien.
Autrichien, voilà. Et donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des distributeurs justement sur des films de montagne. Et c'était l'occasion justement de pouvoir montrer des films d'engagement, d'expédition. Et la montagne, malheureusement, c'est pas tout le temps des victoires, c'est aussi des échecs. Et malheureusement, on peut y laisser des gens.
Oui, Joël.
Je voulais dire que le Nanga Parbat, c'est la montagne que les nazis ont en vain essayé de gravir. Donc, il y a eu plusieurs expéditions avec beaucoup de morts. Et donc, ils n'ont pas réussi à gravir cette montagne. Donc, il y a une liste de victimes assez longue avant que Hermann Bull, donc, qui est un alpiniste autrichien, n'arrive seul au sommet dans des conditions incroyables.
Ce film, donc, Nanga Parbat, la montagne tueuse de Gerhard Bohr, qui a reçu d'ailleurs de nombreux prix dans différents festivals internationaux que vous pourrez découvrir en avant-première ce vendredi 6 décembre à partir de 14h dans le cadre de ce festival Cinechim à Francard, aux salles de Promitei. On va écouter une chanson, Montagna Gheta de Vital, donc une montagne silencieuse et calme. Et on se retrouve tout de suite après. On retrouvera notamment Marc-Andrea Gastellagne avec ce lien également des Corses et de la montagne, avec de l'histoire de la culture de la chanson. Voici Vitalba.
Lo spunta le buone, le struggianto vuoi di bella sulla montagna gore, palesa di so si credi, e sbella l'uso splendore. Spara di usola di inguardo, a soi di gada viara, e abbracciando l'eterno si discenda l'alta sala, matrimonio più sereno, di un gelo e di latara. Stende i sopri miraggi, intricciati di orecenza, e si stinza lui meraci, bergo e nea carezza, o versente i soaci, calassi antu la cresta. Cipora diella zinifrina, il monte gintru viadu, radia l'aria marzolina, si la cauda funato, mentre uso le cammina, un cielo spurgolato. Piomba due delle zine, che le cantano e vade, in due ore turchine, le punte in ala cintate, al tiele come regine, di neve incurnate. Quando lui ora luminisce, l'egenzia si lenta, pure purrine esostrisce, a montagna s'addormenta, all'annata la esprisce.
Facebook évolue. Et vous ? Découvrez les nouveautés du net, développez votre activité et boostez votre entreprise avec les équipes de Facebook. Participez à la journée organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse le 5 décembre au campus CCI Formation de Borgo, avec la participation de l'Agence de développement économique de la Corse.
Da Muradu a Vasteliga, da Luri a Portivecchio, RCFM, Cunoi, Sideva.
17h et bientôt 35 minutes sur RCFM. On continue de parler de Cinecim et à Francardo, le premier festival des films de montagne qui se déroule jusqu'à ce vendredi avec nos invités Jean-Luc Juventin, président de l'association Ciné 2000, Joël Genin, réalisateur du documentaire La Corse des premiers alpinistes 1863-1973. On n'oublie pas bien sûr cette très belle exposition à voir durant toute la durée du festival sur le même thème. Et puis Léa Eusampieri qui est une sorte de passeur, de passeuse entre institutions et donc pivot associatif autour de ce festival. Et puis, un nostro gronigor e priverito, Marc-André Agastellani, buonasera.
Salute, buonasera a tutti.
Contento di ritrovarvi.
Come stiamo?
Beh, strabè. E poi si parla di montagna, donc a penso che ho sudietto vi tocca abbastanza. Yeah. Vous avez justement voulu regarder un peu ce lien, le regarder, l'approfondir, ce lien qui est très fort, qui unit les Corses à la montagne, via aussi un biais, le biais du chant corse. Comment est-ce que vous y êtes pris?
Alors, in Corse, il y a une règle, c'est la musique fait partie intégrante de la vie, accompagne le quotidien. Si on se plonge dans l'histoire, le quotidien est évidemment un quotidien de village montagnard. C'est une île qui a une culture étonnamment montagnarde, de même pour être une île qui a après tout beaucoup de littoral, mais il y a une culture qui est très très ancrée dans ces villages de l'intérieur. Et les premières traces, les brimes musiques, qui sont mortes droites, ou les contibus anciens, ben, sont cantes qui cantent nous ta vie dans Montagnola. Piemo un exemple, ben, questa per esempio.
L'alcudina chiamembi.
L'alcudina, oggi Francesco Bianconi, les vieilles chansons du Tar, qui chantent la beauté de la montagne et qui chantent surtout une connaissance aiguë des lieux et qui montrent une vie, une communion avec, entre le peuple corse et cette terre, avec une connaissance vraiment très très aiguë de chaque lieu, de chaque nom de pierre, de roche, d'animaux, un vocabulaire incroyable. Et puis ensuite, vient la Deuxième Guerre mondiale, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, cet exode massif et cet abandon, ce vide terrible qui se crée, et cette montagne qu'on oublie complètement en Corse, hein, qui se vide de ses habitants, qui se vide eux-mêmes. Et à l'époque, on prend les années 50, 60, voire même 70, il reste des alpinistes allemands qui montent se perdre là-haut, qui donnent leur nom ou renomment certaines cimes, mais elle est à l'abandon. Et puis vient le Riacuisto, Endesto Riacuisto, on réhabilite notamment cette Corse de l'intérieur, cette musique qui vient de l'intérieur, et puis ces lieux avec notamment un personnage qui s'appelle Jean-Paul Poletti, qui va largement contribuer à revaloriser la beauté, à remettre en avant la beauté de ces lieux, notamment par la musique. Également, petite anecdote, en étant moniteur de ski, enfin en tout cas ça a donné des trucs un peu comme ça. Baia Orba Luminosa, Regina Ionca, l'Alta Strada, on pourrait citer également Eneve di Guchon, on pourrait citer Montagnese, et à ce moment-là, on a entendu Montagna Gieta, très bien senti dans la programmation d'ailleurs du groupe Bidalba. La montagne redevient un lieu mythique, les Corses se la réapproprient, le tourisme aussi s'y installe, on met des stations de ski, le GR20 est créé. Le mode de vie change, le lien à la terre change, on n'est plus haut que la montagne, à Guidia, à Dubra, à Daibastor, Ibercampa, mais quelque part il y a une réappropriation, voire même une mystification. Peut-être même un peu trop, parce que dans cette chanson corse, on a tendance à oublier que la montagne, on vient d'en parler d'ailleurs, a un visage aussi également très sévère, voire peut-être même meurtrier, comme parfois. A neve va gelanzolo, il y a énormément de choses aussi sur la montagne qui est dit dans cette petite phrase, sa capacité à gober l'humain et à le détruire. Et ça, ben voilà, c'est peut-être une des seules chansons qui en parle avec la plume de Piero Santucci. Pour la petite anecdote, c'était des alpinistes corses qui s'étaient perdus dans le massif du Chimborazo. Il me semble que c'est en Équateur. Et voilà, tout ça pour dire que, en tout cas, la montagne nous parle, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Et puis, emuda ribiaj tabaro, la stinfrasada studidru di Gianpaolo Boletti, kula montagna che la sia gugugine ma o inda vida, di tira un passo verdi ugelo. Voilà, en matière de mélodie, il n'a pas fait semblant sur ce coup. Ecco, Miguelo.
Merci, Marc-André. C'est plus très instructif et puis, franchement, extrêmement sympathique. Comme quoi aussi, les artistes ont su mettre en valeur la montagne corse, mettre aussi en valeur une réalité à l'instant T ou évoquer aussi un passé important. On parlait avec Marc-André justement des noms de lieux, de la toponymie, qui est relative aussi à différents lieux, qui marque aussi une réalité culturelle, historique, sociale. À un moment donné, je ne sais pas si vous voulez en parler, Léa, aussi, de cette importance aussi de la toponymie en montagne, de ces noms de lieux aussi qui sont nos repères, finalement.
Alors ça, c'est un très, très, très bon sujet. Et en plus, j'y suis particulièrement attachée. Ce que j'aimerais faire, moi, c'est justement arriver à créer toute une signalétique avec ces noms et qui sont les noms véritables et pas des noms qu'on a trouvés au fur et à mesure des années, reprendre. Surtout qu'il y a des associations et des organismes qui y travaillent. Et il faudrait maintenant le mettre en pratique. Ça serait un beau projet. Et il faudrait arriver les acteurs. Je pense qu'on les a. Maintenant, il faudrait trouver un peu la voie politique pour le mettre en œuvre.
On va rester encore un peu sur la Corse avec une nouvelle bande-annonce d'un documentaire qui est qui date de quelques années. Je crois que ça avait été réalisé avec France 3 Corse via Stella par Angelina Risterucci, l'île des îles, 15 000 ans de biodiversité, parce qu'on parlait de la montagne, bien entendu, mais aussi de cette montagne dans la mer qu'est l'île de Corse. Voici un petit extrait de ce documentaire et on en parle juste après.
Ces îles autour de la Corse sont des îles dites d'origine continentale, c'est-à-dire à un moment donné de leur histoire géologique, elles ont fait partie de la grande île de Corse et elles se sont séparées progressivement. Et la dernière séparation date d'il y a un peu plus de 20 000 ans, lors de la dernière glaciation. Le niveau de la mer Méditerranée a progressivement remonté et a individualisé ces petites îles et îlots. Donc elles datent d'environ 15 000 ans à peu près. Elles ont donc toutes à peu près la même origine géologique.
Voilà ce petit extrait de ce documentaire « Les îles de l'île ». Angelina Risterucci, c'était un documentaire de mai 2017. 15 000 ans de biodiversité et là aussi finalement un lien indéfectible, mer, montagne, on y passe en quelques minutes d'un versant à l'autre. Il ne pouvait pas en être autrement.
Oui, et puis Angelina Risterucci sera présente aussi pour après son film.
Vendredi 6, 16h30.
À 16h30, et justement, c'est par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ce qui était important aussi, c'est la projection des films, mais aussi les rencontres qui peuvent être faites avec des acteurs, comme ça a été le cas, ou ça sera le cas avec des réalisateurs, avec des réalisatrices, avec des acteurs.
Des professionnels de la montagne aussi.
Des professionnels de la montagne, des chanteurs, des groupes musicaux, etc. Donc c'est vrai que la diffusion, c'est une chose, mais de pouvoir discuter après, d'avoir une explication, d'avoir un commentaire, de pouvoir échanger. Et c'est ça justement le côté de ce qu'on essaye de faire depuis de nombreuses années au sein de Ciné 2000, justement, c'est ces rencontres et ces partages.
Des invités à mettre en lumière sur les prochains jours. Par exemple, dès demain, est-ce qu'on a des rencontres qui sont prévues ?
Alors demain il y a pas forcément, si vous voulez, à chaque soirée des réalisateurs ou des réalisatrices. On a essayé, si vous voulez, de faire au plus juste avec les films. Ce soir déjà, si vous voulez, dans la salle à 18h, il y aura des lectures sur la montagne par Diana Salicet qui sera présente à 18h. Demain on parlait justement de cette conférence sur la toponymie avec Giazepina Giazecini qui sera présente. Voilà, ça c'est pour le côté, on va dire, lecture et toponymie. Après il y aura d'autres invités qui sont présents. On a parlé d'Angelina Risterucci, il y aura Pierre-Jean Luccione et Alain Gauthier qui seront présents aussi sur la projection du film Corse des sommets.
Vendredi 16h30.
Voilà, il faut pas oublier non plus, et Léa en parlait tout à l'heure, d'ailleurs je voulais remercier Léa parce que c'est vrai, elle parlait tout à l'heure de cette mise en relation entre Ciné 2000 et les acteurs, mais elle a vraiment joué vraiment un rôle très important dans cette manifestation. Je sais, je parle au nom de Jeanne-Paul, je sais qu'elle a beaucoup d'amitié pour Léa. C'est vraiment quelqu'un qui est engagé. La remercier aussi parce que tout le côté visuel, c'est elle qui l'a fait, je veux dire, l'affiche de la maquette sur la partie réseaux sociaux. Et donc voilà, elle a vraiment travaillé, elle s'est impliquée. Je sais que ça a été difficile et encore une fois, je l'en remercie mille fois.
Merci Jean-Luc,
parce que...
trop c'est trop.
Non, je t'en prie Léa, c'est la moindre des choses. Et ce qu'on voulait aussi vraiment marquer, c'était ce côté corso-français. Voilà, et la programmation a été faite justement avec justement la maquette écrite en corse et en français. C'était quelque chose qui nous tenait vraiment, vraiment à cœur. Voilà. Mais encore une fois, Léa, merci mille fois parce que le nom déjà, Cinechim, c'est quelque chose qui est important.
Trouvé. Alors ça, on le doit à Jean-Christophe Attard. Hein.
Je vais aller le remercier aussi. Ouais, merci ouais, Léa. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc c'est encore une fois, merci mille fois.
Bon. Oui, Joël. Oui, je voulais te dire un mot sur la toponymie puisqu'on aborde le sujet. Alors moi j'aime bien parler de ce qui rapproche plutôt que ce qui sépare, et par exemple il y a plusieurs alpinistes qui parlaient d'Alpes Corse, Et d'ailleurs, Hellbrunner, l'alpiniste géodésien qui est venu en Corse, il a terminé ce travail colossal sur les mesures de l'arc alpin. Il l'a terminé en Corse. Il a considéré que la Corse était reliée au continent malgré les vicissitudes de l'histoire. Et puis sur les noms de sommets, parce que bon, vous voyez, vous prenez l'Everest. Bon, l'Everest, c'est Sir John George Everest. C'est un topographe. Mais les vrais noms, c'est Sagarmatha et Chomolungma pour les Tibétains. Et donc, c'est vrai qu'il faut rendre... l'appellation, c'est quand même important. Et pour terminer, sur Von Kub, on a donné son nom à un pic, parce que d'abord, il y avait plusieurs Punta Rossa. Et ça a été la commune d'Asco qui a décidé de donner ce nom au pic, une des Punta Rossa.
Ouais, précision importante, il fallait l'apporter, c'est fait avec Joël Genin. Que serait également la montagne, les montagnes sans la faune? C'est pour ça que je vous propose d'écouter tout de suite une autre bande-annonce d'un film qui sera projeté lors d'une séance scolaire pour les CM1, CM2. Ce sera vendredi à 9h30, Ours simplement sauvage, un film de Vincent Munier et Laurent Geoffrion. On écoute.
Juste le fait de savoir qu'il est là, c'est ça en fait. On vit dans un milieu qui est suffisamment sauvage pour avoir des ours, pour abriter des ours. C'est ça qui me plaît. C'est vraiment sauvage.
Je respecte, je vais doucement, parce que je sais que là, je suis chez lui. Et en fait, l'ours, quand je le croise, on peut rester 20 minutes à se regarder, tranquille. Je pense qu'on a trouvé justement cet équilibre entre nous deux.
Voilà, très touchant, Ours simplement sauvage. Vendredi à 9h30, séance scolaire. Film qui propose donc une immersion dans l'un des décors les plus sauvages et mystérieux d'Europe, celui de la cordillère cantabrique. Des images qui nous transportent dans un univers magique où la nature est restée intacte au fil des années. Ça m'amène à parler aussi de ce public scolaire, important notamment pour votre association Ciné 2000. On fête d'ailleurs les 20 ans de l'association cette année. Il y a bien sûr cet engagement à durer, à proposer toujours de nouvelles choses, de nouveaux contenus pour tous les âges, mais aussi quand même agir pour ce milieu scolaire, pour ces enfants, pour leur aiguiser un certain regard autour des films, du cinéma, de l'image. Et puis c'est un bon relais aussi, les enfants, ensuite, pour amener les parents, justement, vers d'autres contenus aussi, et des contenus vertueux en l'occurrence.
Oui, puis il y a ce côté, je parle pour les maternelles, les primaires, ce côté de naïveté, c'est-à-dire que, et c'est bien d'ailleurs que les enfants restent avec ce côté le plus longtemps possible, parce que quand les films qui sont d'animation ou qui pourront être projetés, comme c'est le cas de l'ours, il y a toujours des messages, voilà. Et ce qui nous intéresse aussi, après la discussion, après la projection des films avec les enfants et les scolaires, on a un animateur, Michel Lucian, qui adore les enfants, et justement de pouvoir discuter avec eux. Et on est hyper étonné chaque année par rapport en fait à cette vision des enfants sur le film d'animation, ce qu'ils ont ressenti. Et je pense que même nous, en tant qu'adultes, on perd certaines images justement de fraternité, de partage, d'engagement. Et c'est ça justement qu'on retient dans les projections pour les scolaires. On essaie d'être assez large le plus possible et de leur faire passer des messages. Mais finalement, ce sont eux qui nous font passer des messages, voilà.
Par effectivement la vérité qui sort de leur bouche souvent avec des remarques parfois très très pertinentes. Hein.
Oui. Il y a quelques mois de ça, donc on avait projeté un documentaire et un film d'animation, pardon, et on aime en effet poser des questions et même nous en tant qu'adultes, on n'a pas forcément des fois cette vision ou ce regard. Peut-être que on a tendance à zapper peut-être plus facilement les images, mais le regard des enfants est très intéressant, et surtout même leur discussion et la discussion après la projection.
Un film aussi que je voulais évoquer avec vous et qui parlera, je pense, aussi à Marc-André, prix du jury du Festival de Cannes 2019 tout de même, c'est Bacurau, film franco-brésilien, une grande fiction politique. Le petit pitch rapidement.
Alors, c'est un film qui a été projeté à Cannes, qui a eu en effet le prix du jury, qui est quelque chose qui est pas facile, qui est surprenant. C'est vraiment un film à découvrir, et je trouve que c'est bien qu'il soit projeté à Francard, voilà, parce que on est dans le rural, on est quand même sur une contrée qui est pas facile. On est au Brésil, et c'est vraiment un film à découvrir, et j'invite l'ensemble des spectateurs à venir. Alors, c'est vrai qu'il y a petit interdit au moins de 12 ans, mais c'est vraiment un film fort. Oui.
En quelques mots, dans un futur proche, le village de Bacurau, dans le Sertão brésilien, fait le deuil de sa matriarche carmélite, qui s'est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a tout simplement disparu de la carte. On repense aussi, bien entendu, à ces scandales au Brésil, à ces questions politiques aussi qui hantent la vie publique brésilienne, à cette déforestation de l'Amazonie aussi, ces intérêts économiques énormes, monstrueux aussi, qui amènent à détruire une faune et une flore exceptionnelle, mais aussi à meurtrir des populations entières.
Alors, je ne suis pas un spécialiste, si vous voulez, du Brésil, mais c'est vrai qu'encore une fois, par rapport à ce que vous avez dit et le constat de ce qui se passe au niveau environnemental, ne peut pas vous laisser en effet sans voix. Et on parlait de l'eau tout à l'heure, on parlait aussi du dérèglement climatique, du bilan carbone, etc. Donc aujourd'hui, il y a quand même énormément de films qui sont des fictions, mais qui vont traiter aussi d'un sujet comme l'environnement régulièrement. Donc voilà, c'est ce type de film est à découvrir. Et encore une fois, c'est une interrogation sur ce monde et notre société.
En quelques mots, qu'est-ce que je ne dois pas rater là, si je suis de passage à Francard comme film que vous me conseillez, si on a pas encore évoqué vraiment tous les films, mais une autre fiction, quelque chose de fort qui vous prend aux tripes?
Alors, je pourrais vous inviter, il y a énormément de logements qui sont disponibles autour de Francard, donc tant qu'à faire, si vous devez être à Francard, vous pouvez rester la semaine sans aucun problème. Non, après, c'est assez large, il y en a pour tous les goûts, donc c'est sûr que Bacurau, comme vous avez dit, c'est quelque chose d'important. Il y a la soirée aussi de clôture qui sera proposée avec un film et aussi avec Feli et le groupe Isolatine. Voilà, enfin, découvrir aussi l'exposition de Joël Genin qui est en permanence dans la salle Prometheus, venir voir cet espace pour ceux qui l'ont découvert, ils repartent enchantés. Pour ceux qui connaissaient la salle, de les inviter à voir cette salle équipée aujourd'hui et vraiment montée comme une salle de cinéma, et de rencontrer les bénévoles, de rencontrer notre public, de rencontrer les réalisateurs, réalisatrices, les invités. Voilà, c'est ce côté d'échange qu'on a vraiment voulu, et on y tenait vraiment de garder cette logique de l'association. Voilà.
Pour la soirée de clôture, effectivement, le 6, Feli et Isolatine est sur scène. Soirée montagne avec film, buffet et concert. Et puis, il y avait hier, je crois, toujours côté scolaire, un conte musical ciné-goûté aussi. C'était un instant particulier.
Oui, le ciné-goûté, quelque chose sur Ajaccio qui est récurrent depuis de nombreuses années. Et on a essayé de pas déroger à ce que l'on met en place sur Ajaccio, en essayant justement d'amener notre public ou ce nouveau public à découvrir des contes du cinéma. Ce qui a bien fonctionné, c'est-à-dire que pour une première, on est content. Voilà. Enfin, je pense encore une fois que ce type de manifestation, et on espère que l'année prochaine, c'est quelque chose qui sera reconduit avec des petits aménagements, parce qu'on a déjà des petites idées par rapport à l'année prochaine. Mais voilà. Et comme le soulignait Léa tout à l'heure, des habitants de Francarde, en effet, et même de Corté, puisqu'on a rencontré un enseignant qui a emmené d'ailleurs des élèves cet après-midi, a dit « mais moi, je veux m'engager par rapport à ce que vous faites ». Voilà, donc c'est aussi de pouvoir pas venir d'Ajaccio et de proposer, mais c'est aussi de se servir de ce qui est sur place, des personnes qui sont là, des habitants qui ont envie de s'investir et de pouvoir justement donner à ce festival une autre dimension. Voilà, et c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire. Remercier aussi les partenaires, que ce soit la collectivité, la communauté de communes aussi, et les offices de tourisme qui se sont mobilisés, l'ensemble du personnel, voilà. Et c'est vraiment ce festival-là, il faut vraiment se l'approprier. Et si en effet on peut se projeter sur l'avenir, vraiment de donner une dimension, une grosse dimension à ce festival, voilà. Ouais.
Cinecime à Francarde, le premier festival des films de montagne, c'est jusqu'au 6 décembre à la salle Prométhée. Merci Jean-Luc Juventin, merci Joël Genin, merci Léa Ouzampier d'avoir été avec nous ce soir.
Merci.
Et merci à Marc-André Agastellani pour cette très belle chronique une nouvelle fois.
Merci.
Tante felicitazioni. Émission à retrouver en podcast sur le site d'RCFM. On va se quitter avec un petit extrait musical, si on a le temps, même ne serait-ce qu'une minute, d'A Montagnière, d'Avilita. Bonne soirée à tous. À 18h, les infos, Patrick Rossi.
Appronta Dio Gabraio a la sciampia di Calamana che avana al tuiaio dopo giunto in Baragliana. A Begi va la Zorama qui baran estremo in un mare avemo gli stessi antichi sbucarei in cabrunale guardando Supramenta omida avuntone udasu, ma già di agro genua, chiavetti un sé.